Radio Spirale.
Une hanche et demie, dans le cadre des rencontres d'écrivains du CRILC, avec Roxane Desjardins, animée par Jean-Simon Desrochers. Roxane Desjardins est l'auteur de Ciseaux, paru aux Herbes Rouges en 2014, qui lui a valu le prix Émile Nilligan et le prix Félix Leclerc. Elle publie aussi des fanzines de poésie, Constance Succombe et Cannibale Maison, avec Coco Simone Finken, Avant le geste avec Félix Durand. Son prochain livre, Moi qui marche à tâtons dans ma jeunesse noire, paraîtra aux Herbes Rouges à l'automne 2016. Roxane Desjardins est éditrice de poésie chez Le Lézard Amoureux et fait partie de l'équipe qui reprendra la rédaction de la revue Moebius en janvier 2017.
Bonjour, bonsoir, plutôt, on va commencer avec le bon mot. Donc, merci beaucoup de vous être déplacés par cette douce et neigeuse soirée montréalaise. Ce soir, nous recevons Roxane Desjardins, que vous connaissez probablement tous, ou peut-être un peu. Si ce n'est pas le cas, on va tenter de remédier la situation de façon efficace et peut-être élégante. L'élégance n'étant pas toujours dans mon fort. J'y travaille. Vous pouvez rire absolument, j'aime beaucoup qu'on rit de moi en général. Donc, une courte présentation, parce que Roxane Desjardins trône quand même au sommet d'une œuvre publiée. Mais il faut y arriver encore à cette œuvre. Attention, c'est quand même pas la même chose. Néanmoins, il y a la preuve ici sur la table qu'il y avait des précédents et des après aussi, et je sais aussi qu'il y aura des suites. Première œuvre qui marque une entrée, disons, plutôt remarquable dans le milieu littéraire pour Ciseaux, paru en 2014 aux Herbes Rouges, qui s'est mérité à la fois le prix Émile Nilligan et le prix Félix Leclerc, et qui est le premier livre de l'histoire à se mériter ces deux prix, qui ont quand même deux petits noms fort intéressants. C'est une manière de mettre Roxane très à l'aise et de m'assurer qu'elle rougisse abondamment dès les débuts. Donc, on pourrait parler longtemps. Vous allez remarquer que je ne vous verrai pas, l'invité, parce que il s'avère que nous nous connaissons un peu, nous travaillons ensemble sur certains projets que je garderai secret pour l'instant, mais où vous serez invité un jour à savoir de quoi il en ressort. Je vais commencer d'une façon très simple et très complexe, et je vais te demander tout simplement, à la façon Guillaume Lepage, sans vraiment lire mes questions, mais comment en es-tu venu à l'écriture? Question simple. Prendre un crayon est un bon début de réponse.
Oui, c'est pour cette question, alors que ma mère est devant moi, ce qui est un peu... C'est différent de... Je ne sais pas qui n'a pas commencé à écrire quand il était adolescent, mais j'ai de la misère à imaginer comment on ne commence pas à écrire en étant adolescent. Et c'est difficile de parler de son adolescence avec sa mère devant soi, parce que...
C'est correct.
Elle peut se boucher les oreilles aussi. Ça va être disponible sur Radio Spirale.
Je sais pas. J'ai réfléchi aujourd'hui à cette question et j'en ai conclu que probablement le poème que j'ai lu qui m'a donné envie d'écrire un poème était dans, malheureusement je n'ai pas retrouvé le titre, mais un roman plus de La Courte Échelle. Je sais vraiment plus c'est quoi. Le personnage écrivait un poème pour l'envoyer genre au journal étudiant, puis moi je lisais vraiment, vraiment beaucoup de romans quand j'étais plus jeune. Je n'ai lu que des romans pendant beaucoup d'années avant de comprendre qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient s'écrire. Mais dans ce roman, le personnage écrivait un poème, puis ça me semblait autrement plus accessible, je pense que... Enfin, j'aimais beaucoup l'écriture, là. Mes professeurs à l'école primaire me disaient que j'allais devenir écrivaine, mais tu fais des bonnes phrases avec sujet, verbe, complément, puis tu es capable d'entourer en rose le S à la fin. Bon, quand t'as fait du pluriel, là, ça c'est une chose, puis c'est une autre chose d'écrire vraiment. Je pense que les profs de primaire disent ça plus souvent à des gens que des gens deviennent écrivains vraiment. C'était vraiment long comme introduction. Bref, en tout cas, j'écris beaucoup de poèmes avant de savoir c'était quoi un poème. Vraiment beaucoup. J'avais un cartable en secondaire 2. J'écrivais beaucoup de choses dedans, mais en vers. C'était mon premier accès à la poésie, c'était que c'était des vers. J'ai recopié des paroles de chansons, j'ai fait des listes d'adverbes. J'ai laissé tomber ça à un moment donné. C'était pas trop clair, c'était quoi. Finalement...
La liste d'adverbes. OK, mais ça, je mets ça dans la banque pour une prochaine question.
Ouais, je sais pas trop. Finalement, j'ai fini par écrire des poèmes un peu par accident, je pense. J'ai appris à lire de la poésie certainement bien après avoir commencé à en écrire. Puis c'est sûr qu'il y a des, je veux dire, il y a des moments, là, il y a des étapes. Il y a découvrir Gaston Miron en secondaire 4, là, puis découvrir Geneviève Desrosiers, puis enfin comprendre que ça serait le temps que j'arrête de chercher la lecture idéale ou le livre parfait que je voudrais avoir écrit de A à Z moi-même. Je pense que le moment où j'ai lu « Nombreux seront nos ennemis » de Geneviève Desrosiers, c'est le moment où je me suis dit « Ah, OK, je ne trouverai pas le livre parfait, il faudrait peut-être que je le fasse. » Et je ne considère pas que « parfait » veut dire « parfait pour tout le monde », mais bien « parfait pour moi ». Bon, puis finalement, c'est bien évanescent parce qu'on en parle maintenant, puis Ciseaux est sorti il y a maintenant un an et demi, et ce n'est plus le livre parfait, alors il faut que je retravaille au nouveau livre parfait. Il y en a un qui est en cours. C'est déjà putain le livre parfait non plus, fait que je travaille au troisième.
C'est ce qu'on appelle une démarche d'écriture en général. C'est d'essayer d'arriver à un certain point de satisfaction jusqu'à temps que la satisfaction devienne un cauchemar. Mais on va parler de Ciseaux un peu, parce qu'il y a beaucoup à dire, je crois, à propos de ce petit livre très imparfait, selon tes dires. Mais bon, je me garde un droit de réserve là-dessus pour te contredire. Pas qu'il est parfait, mais disons qu'il présente des choses qui, à mes yeux, peuvent être un peu usées de lecteurs de poésie qui en a un peu trop lu dans sa vie. Présente vraiment ce que je pourrais appeler, peut-être toi qui pourrais te gêner, mais des aspérités très signifiantes. C'est un peu comme s'il y avait une très grande gourmandise dans Ciseaux où, quand je lisais, j'avais vraiment l'impression d'être face à une auteure qui voulait tout se permettre en poésie, avec un certain sentiment de, pas d'anarchie, mais d'un certain je m'en foutisme de faire cohabiter des formes improbables, de se permettre l'alexandrin si nécessaire. Oui, tu peux te relire, ça peut être une bonne chose.
C'est un accident.
Mais c'est quand même un alexandrin. D'arriver avec des images très improbables, tu as des baleines, je crois, qui descendent des yeux, tu parles d'une chaise à la place des reins, cet échange ici s'appelle Une hanche et demie, qui est un verre qui est tiré de Ciseaux. Donc, un jeu sur le... tant sur le corps que sur les possibilités de l'image qui, dans le panorama en poésie en général, était peu commun. On était soit dans un créneau très intimiste, ou dans un créneau très lisible, ou plus formel, un formalisme très froid, alors que j'ai l'impression que tu voulais tout te permettre. Est-ce que c'est tant par inconscience, ou est-ce que c'est par désir de volontairement t'en foutre un peu et de te permettre tout? Donc, est-ce que c'est « fuck tout » ou « fuck tout » en fait?
Ah, c'est certainement fuck tout. Je dirais peut-être même le deuxième. Mais en même temps, c'est pas fuck tout parce que c'est le contraire de fuck tout. C'est bienvenu. Tout. Et je cite encore Geneviève Desrosiers qui m'a appris bien les choses, même si je trouve son livre tout à fait imparfait. C'est difficile de répondre à cette question-là parce que d'une certaine façon, c'est juste ma façon. Puis je pense que particulièrement quand on fait un premier livre, enfin pour moi ça a changé à partir du deuxième, peut-être des gens pour qui c'est différent, mais pour moi le premier c'est un accident au sens où avant que j'arrive à composer un manuscrit, j'ai écrit plein de suites de poèmes qui sont tombés dans l'oubli ou pas, ou dont il reste des petits morceaux dans ça, mais j'ai pas composé Ciseaux. Ciseaux a fini par arriver à un moment donné parce que j'avais plein de suites de poèmes, parce que j'avais un petit peu l'impression que c'est ce qu'il fallait faire. T'as fait des suites de poèmes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On essaie de faire un manuscrit. Puis une fois qu'on a un manuscrit, on essaie de l'envoyer à un éditeur puis que ça fonctionne. Encore une fois, j'ai connu quelques échecs de ce côté aussi. Bref, il y a peut-être que les années d'écriture jouent sur cette cohabitation de diverses formes. Je sais que les images les plus improbables, comme les baleines descendent de tes yeux, puis Scandé, une Sibérie tronquée, tout ce poème bizarre-là, sont arrivées à un moment où j'ai senti que j'avais plus mes moyens en poésie, puis que par conséquent, j'avais une sorte justement de frénésie de découvrir la liberté finalement, parce que à l'origine, comme beaucoup qui se ramassent à faire de la poésie intimiste, j'imagine, j'ai quand même commencé par essayer de faire des poèmes qui allait rendre une émotion. C'était ça, le cœur de ma démarche. Pendant très longtemps, c'était rendre une émotion. Puis comment le faire? Bien, avec... À un certain point, les émotions, c'est très plate. Là. On n'a pas beaucoup de mots, malheureusement. L'amour, c'est l'amour. Triste, c'est triste. Puis l'âme, c'est l'âme. Puis bouche, c'est bouche. Puis j'ai aussi beaucoup de problèmes avec le corps parce qu'on a malheureusement un seul nom pour la plupart des parties du corps, ce qui fait que c'est extrêmement limité. Puis mettons, j'ai pas souvent envie de mettre le mot thorax dans un poème. Je dis là, c'est sûr qu'il va être dans le troisième, c'est sûr. Il va y être. Mais bref, donc c'est ça, après avoir... c'est des couches, je pense, de réécriture qui créent cette... cette impression « fuck tout ». Et plus ça va, plus on a l'impression d'avoir des moyens, plus on fait des images compliquées. À un certain point, on finit un livre comme ciseaux, puis après, on tombe dans un désert absolu parce qu'on a l'impression d'avoir fait toutes les images qui existaient au monde.
Puis là, il suffit d'ouvrir un autre livre de poèmes très souvent, on découvre que non, il y a encore plusieurs en potentiel.
Oui, puis après, on a des petits chocs aussi, comme « Ah, mon amie Chloé, ça va, Bernard, a publié Royaume Scotch-Tête, dans lequel elle a l'image de... Je sais pas, elle, c'est comment, mais c'est clairement du verre cassé coulé dans la bouche. Puis j'ai ça, moi, hein? J'ai ça, je vais le trouver. Je vais vous le lire. C'est la même image. Je vais juste pas le trouver. Ce n'est plus exactement cette agitation, mais du verre cassé coulé dans ma gorge. Fait que là, cette semaine, Philemon Simon a sorti un EP. Philemon Simon est un musicien que j'aime bien. Sa première tune s'appelle « Verre cassé », puis sa première tune commence par « J'ai avalé le verre cassé ». Fait que là, tu dis « Ah ouais, peut-être finalement que mes images sont pas si originales. »
Ou que tout le monde t'a lu, c'est une...
Oh ouais! Non, j'irai pas vers ça. Non.
D'accord, on n'ira pas vers ça. Mais t'as mentionné la notion des réécritures, et à partir de quel moment est-ce que tu as considéré nécessaire d'intégrer la réécriture dans l'acte d'écriture? Très souvent, là, moi je le vois dans les ateliers que je donne, l'acte de création est très fétichisé, c'est pas ça? Ou, hein? il y a une fétichisation, pardon. J'ai parfois des problèmes le lundi soir avec certains mots longs. l'idée du premier jet qui transporte ou qui garde une vérité quelconque, à quel moment est-ce qu'on passe au-delà de ça et qu'on reconnaît le texte comme étant quelque chose qui est de la matière, en fait?
Tôt. Très tôt. Ben, ça dépend de ce qu'on veut. J'ai beaucoup d'estime pour cette écriture qui est un geste, qui donc n'existe que quand elle survient et qui a cette intensité, cette importance et cette vérité du moment où elle a été faite. Mais au-delà de ça, j'ai pas commencé à écrire des poèmes en me disant « je sais comment ». Que j'ai eu la chance d'avoir quelques lecteurs, en particulier une personne qui s'appelle Alexis Lafleur, qui a publié très peu de poèmes, mais qui est très important encore pour moi maintenant, qui est un poète exceptionnel. Il va peut-être finir par faire un livre un jour. Mais Alexis et moi, pendant plusieurs années, on a retravaillé nos poèmes ensemble, on s'envoyait tous nos poèmes par courriel, on a fini par développer un code de couleurs. On a fini par développer, dans notre code de couleur, une couleur qui voulait dire « j'ai changé ça, qu'est-ce que t'en penses? » Puis à un certain point, c'était même plus « qu'est-ce que t'en penses? » C'est « j'ai changé ça, c'est mieux. » C'est vrai. oui, on a aussi, à force de se relire mutuellement, développé la couleur orange, qui est... je pense que c'est orange. Ça, c'est... Coudonc, t'as-tu lu mon dernier poème? Parce qu'on dirait vraiment que tu m'as volé ça sans t'en rendre compte. Mais on retravaillait, on était vraiment dans cette idée-là de rendre la bonne chose. On est passé par plein d'endroits là, pour se rendre jusque-là. Entre autres, on a eu des moments très, très, très explorés, hein, je dirais. On a inventé beaucoup de mots. Ça faisait partie de notre façon de décrire des choses. Je pense qu'on sentait une certaine impossibilité dans la langue à laquelle on avait accès, puis on s'est rendu jusqu'à se dire, ben, fuck off, on va créer des nouveaux mots qui vont rendre mieux le sentiment étrange que j'ai.
Et qu'est-ce que ça vous est venu comme ça, de dire on va faire de l'explorer, hein, on va inventer des mots?
Ben non, mais on s'est mis à appeler ça de l'explorer quand on a compris que Claude Gauvreau était passé par là avant nous, entre autres.
Mais c'est un processus de réflexion que vous avez fait naturellement, comme ça, sans même avoir lu Gauvreau?
Ben je pense que oui, c'est très iconoclaste des adolescents, hein, ça lit pas des livres. On avait lu Nelligan, puis on avait lu Miron, puis après ça, on allait, moi je me rappelle, j'allais tout le temps à l'échange regarder dans le rayon poésie. Puis je verrais tous les livres, puis comme je cherchais juste le livre parfait, mais je trouvais pas grand-chose que j'aimais. on lisait très peu, finalement. On s'envoyait pas lire des poèmes, mettons, tant que ça. On était plus dans notre propre recherche un peu candide.
Mais c'est très dadaïste comme façon de faire aussi, de dire qu'on fait table rase, et on réinvente des mots, et on construira sur ça. C'est exactement ce que Dada a fait il y a 100 ans.
Mais peut-être que Dada était plus informé que nous. Nous, on était juste vraiment extrêmement intimidés par la quantité de choses qui existaient et l'impossibilité de se frayer un chemin dedans, là. Je pense qu'on a commencé ce processus-là quand on était au cégep, où j'ai beaucoup aimé mon cours de français 101, où on lisait Candide et Phèdre. Mais vous savez, On n'avait pas besoin de lire Candide et Phèdre pour faire nos poèmes. On avait vraiment besoin, je ne sais pas de quoi on aurait eu besoin. On aurait eu besoin. Récemment, j'ai lu la préface que Roger Desroches a faite à Je de Denis Vanier, qui est un livre qui est paru en 65.
Roger Desroches, c'était pas Claude, c'est pas Gauvreau qui l'avait faite, celle-là?
Il y a une préface de Roger Desroches aussi dans ce livre.
Oh, pardon, d'accord. C'est pas la même édition.
Non. Alors, Roger Desroches, quand ce recueil. Bon, je vais faire la mise en situation historique un peu, là. Je est un recueil qui est paru alors que Denis Vanier avait 15 ans. Et ce sont des poèmes qu'il a écrits à l'âge de 13. Et il devait donc être un peu. Je sais pas qu'est-ce que Denis Vanier avait lu, sincèrement. Il a fait d'autres choses après qui. Je veux dire, ses œuvres subséquentes l'ont confirmé et ont créé un personnage de lui assez différent, finalement, de ce qu'il y avait dans ce premier livre-là. Mais bref, Je est sorti en 65. Et à l'époque, Roger Desroches, qui est un autre poète très important et très important pour moi, avait aussi 15 ans. C'est un petit peu plus vieux que Denis Vanier. Puis il raconte dans cette préface-là comment la découverte de la poésie de Denis Vanier lui a ouvert un monde tout à fait inexploré parce que jusque-là, il avait lu Rimbaud et Mallarmé. Il dit Verlaine, je pense. Moi, je pense à Mallarmé.
Ça serait logique.
Point. Il y a des L dans leur nom. Puis il raconte comment finalement ça a été comme une ouverture complète pour lui du monde de l'écriture. Puis Roger Desroches, finalement, ce qu'il dit dans cette préface-là, c'est « J'ai appris à écrire avec Denis Vanier ». Il dit aussi « Il a fallu que je me détache de Denis Vanier parce que une fois qu'on a trop lu quelqu'un puis qu'on a trop essayé de le calquer, on se perd complètement dedans. » Mais reste que le déclencheur de l'écriture de Roger Desroches, selon Roger Desroches, ça reste « Je » de Denis Vanier. Et en ce sens, mon déclencheur d'écriture ne pouvait certainement pas être Candide. Ça avait juste pas rapport.
C'est une très grande boucle pour revenir à Candide, mais c'est très élégant.
Mais je pense que j'ai mal bouclé en plus parce que je voulais plutôt dire qu'on savait pas du tout quoi lire. Comment tu sais quoi lire quand t'as comme 16-17 ans, puis t'aimes les poèmes, mais tu sais pas ce que ça. Je veux dire, on n'avait pas de vocabulaire de ce qu'on aimait dans la poésie non plus. Là. Je veux dire, à un moment donné, c'était cool, on a découvert la nuit de la poésie. Là, on avait accès au poète qui avait été retenu pour la vidéo de cette nuit de mars 70. C'était encore très peu. Puis on est allé lire un peu ce qui nous avait attiré là-dedans. Mais ça reste que, ben, c'était l'innocence, c'était la pure candeur.
Mais en même temps, il y avait une vision très claire de ce qui était inadmissible. Il y avait beaucoup de livres qui ne franchissaient pas la porte de l'échange. Ça restait là. Et qu'est-ce qui faisait que ça restait là? Qu'est-ce qui était refusé? Et pourquoi ça l'était?
Était refusé ce qui nous semblait déjà exister. C'est ça.
Mais par définition, comme ça existait déjà, tout existait déjà aussi.
Oui, c'est un problème.
Qu'est-ce qui existait moins ou plus, disons?
Ben, je pense que nous, on cherchait... Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on cherchait? Et moi, c'est difficile, je cherche encore la même chose maintenant, finalement. Je cherche quelque chose d'impossible à décrire, qui... Mes exigences, j'ai des exigences qui sont concrètes, là. Je veux dire, j'imagine que j'ai des critères, là. Genre, c'est quand même plus rare que la poésie qui rime m'attire maintenant. C'est quand même un peu de base comme critère. T'sais, j'ai envie que l'invention formelle ne soit pas autour de faire fitter les mots ensemble parce qu'ils sonnent pareil. Encore là, c'est vraiment pas vrai ce que je viens de dire. Parce que des fois, j'aime beaucoup les rappels de sonorité, j'en fais plein, là. Je sais, comme j'ai un petit côté reprendre le mot 8 fois parce que en changeant juste 2 lettres dedans. Je sais pas qu'est-ce qu'on cherchait. On cherchait quelque chose de juste, puis je veux dire, c'est très émotif, finalement, la poésie, je pense. C'était très abstrait, notre rapport à la poésie, en tout cas. On cherchait pas... J'ai beaucoup haï la poésie narrative, mettons, juste parce que ça disait que ça racontait une histoire, puis ça me semblait complètement inapproprié. Parce que, tu sais, il y a comme des romans, des nouvelles, des contes pour raconter des histoires. Tout le monde raconte tout le temps des histoires, là. Tu fais un poème, t'as le droit, là... Raconte rien, là, beurre, mets des mots, tu sais, il va peut-être arriver quelque chose de mystérieux, ou de, je sais pas, ça me semblait plus vrai. Aussi, les personnages sont toujours faux, tu sais, les personnages sont toujours inventés, ça me semblait absolument aberrant de continuer dans un poème, de travailler avec des personnages, franchement, je vais finir par le faire aussi, si j'arrive.
Mais dans ton prochain livre, tu as quand même des personnages, mais ce n'est pas tout à fait de la poésie.
Non.
On y reviendra plus tard. Mais parlons, disons, du personnage qui... Parce que tu parles de roman comme ça, tu sens un peu pourfendre, pas tant l'idée du roman, mais certaines des mécaniques qui forment le roman, dont le personnage. Pourtant, tu cites Régent Ducharme, mais c'est la seule citation officielle dans Ciseaux. Il y a beaucoup d'intertextes qu'on retrouve ailleurs, mais Duchamp est le seul. Il y a un jeu dans Ciseaux qui, bien évidemment, est un jeu, un sujet poétique, mais qui, dans la lecture que j'en ai fait, me faisait un peu penser à un jeu qui est un peu un personnage de Duchamp, un peu un côté, je sais pas, un côté Constance dans La Vallée de la Vallée qui rejette tout et embrasse tout en même temps pour des raisons qui sont tout aussi aléatoires que très bonnes.
Là, tu dis Constance à cause de Constance Scorn, mais tu veux dire Bérénice.
Bérénice, oui, pardon. Martine va me lancer. Mais tes pensées résonnent jusqu'à moi, Martine. Oui, mais c'est parce que j'ai Constance marquée là, en effet. Ça marque. Mais elle succombe, donc. Mais Bérénice, pardon, oui.
Ce jeu n'est certainement pas Bérénice, mais tu n'as vraiment pas tout faux. Encore une fois, c'est très accidentel. C'est difficile d'en parler après coup parce que c'est comme arrivé, hein? Il est là maintenant. Mais j'admets que ce qui se passe entre moi et le jeu dans le poème, c'est de l'ordre de créer un personnage. Un peu de la même façon que dans tout ce qu'on écrit au jeu, peut-être, mais peut-être plus dans un poème parce qu'il y a une liberté dans l'image, parce qu'il y a une... Il y a beaucoup d'espace quand on écrit des poèmes obtus comme les miens, dont on ne s'attend pas nécessairement à ce que tout le monde se dise « j'ai compris ce que ça voulait dire », ni ce que ça racontait. Donc, quand on fait des poèmes obtus comme les miens, on a beaucoup de liberté parce que finalement, on peut raconter tous ces secrets de façon très codée puis que personne ne le sache. Or, même quand on raconte tous ces secrets, on crée un personnage de soi, évidemment. Puis c'est certainement une activité qui me plaît beaucoup. Là. C'est pour ça que je continue d'écrire. C'est pour créer un personnage qui est effectivement très du charmier. Là. Je veux dire, mon personnage préféré est clairement une personne extrêmement ironique, extrêmement lyrique, extrêmement braillarde, extrêmement impatiente. Et j'imagine que toutes ces choses-là se retrouvent par accident dans Ciseaux.
Et la notion de ciseaux, c'est pas un peu justement cette idée-là de rentrer avec une paire de ciseaux dans tout et d'y aller extrêmement fort?
Oui, mais vraiment doucement même.
Mais il n'y a pas le désir du roman derrière tout ça, ou le désir d'une forme du récit. Bon, parce que j'ai eu la chance de lire la suite des choses dans le cas de Roxane, et la suite des choses est dans l'ordre du récit, mais je vais ajouter 8 guillemets autour du mot récit.
Parce on peut dire récit, on a décidé avec...
On peut laisser soin, oui, mais...
Ça va être publié comme récit, ça va être écrit récit en dessous du titre.
Donc, ça va être réglé.
C'est ainsi que fonctionnent les catégories littéraires.
Donc, c'est un peu une manière d'aller dans le roman. Donc, est-ce qu'il y a un désir du roman aussi qui est là? Est-ce que c'est le même désir du personnage qui veut s'exprimer autrement, avoir peut-être droit à un lyrisme peut-être plus affirmé ou peut-être plus intelligible?
Oui, mais je commence à être tannée de me retenir de mettre 8 fois le mot « bouche » là, dans un livre. Fait qu'à un certain point, je vais peut-être devoir écrire un roman juste pour pouvoir laisser libre cours à mon élan. Mais en réalité, mais oui, j'aime beaucoup les romans, mais en même temps, il y a beaucoup de choses que je trouve difficiles ou frustrantes dans le contrat de lecture du roman, en fait, qui font que j'ai finalement toujours recours à des formes... Bon, je peux vous parler un peu là, du prochain livre. Là. Plusieurs d'entre vous savent ce que c'est, parce que c'est mon mémoire de maîtrise et j'en ai rebattu les oreilles de nombreux d'entre vous avec ça. Ça, c'est une phrase avec un « an » qui n'avait pas de but, là.
J'ai jamais noté à quel point Roxane réécrit ses propres phrases au fur et à mesure qu'elle parle.
Il y a une correctrice en moi. Donc, mon prochain livre s'appelle « Moi qui marche à tâtons dans ma jeunesse noire ». Oui, c'est un vers de Nelly Gunn. C'est un vers de la romance du vin. Et c'est donc un... Je pense que le mot le plus juste pour le décrire, ce n'est pas récit, c'est autoportrait. Et... c'est un autoportrait, donc, d'adolescente. Puis, évidemment, parce que c'est un autoportrait, il y a des morceaux narratifs. Il y a des morceaux qui sont plus des poèmes. Mais c'est très... c'est pas le bon mot, là, mais c'est très expressif ou énonciatif ou performatif. C'est tout pas les bons mots, mais... Enfin, c'est beaucoup de l'écriture pour l'écriture, au sens où une fois que tu l'écris, ça va mieux, là. Il y a beaucoup de ça. dans ce projet. pour lequel j'ai eu besoin de me créer une contrainte formelle extrêmement stricte, c'est-à-dire que je voulais que le texte soit écrit à la main et je voulais que le texte soit écrit sur des pages où la case serait son élément de structure principale contre la ponctuation. J'ai apporté des pages, là. Enfin, les voici.
Je vais servir de porte-page.
Voilà, j'ai apporté des affiches que j'ai faites avec les pages qui faisaient le plus affiche. Hein. Il y a des pages qui sont moins flowchart, comme ça. Enfin, c'est assez narratif, là, ça se suit. Là. J'ai écrit des phrases à l'origine, mais j'aurais jamais été capable d'écrire des phrases si je m'étais pas dit que ça allait être en case, que ça allait être écrit à la main. On dirait que je me suis un peu bluffée avec ces méthodes. Maintenant, je sais pas, François, mon éditeur, François Hébert, m'a dit « J'aimerais savoir la fin de son histoire d'amour. Tu vas-tu faire un tome 2? » J'en doute parce que je suis vraiment tannée de faire des pages à la main puis de me dire « Oups! » Ah ouais, oups, finalement, il faudrait que je change ces mots-là, je vais refaire la page à la main au complet. Donc, je vais peut-être être obligée d'écrire un roman pour adolescente comme j'en ai toujours rêvé.
Donc, ça sera un retour aux sources un peu. C'est une manière de revenir à ce qui a été ton déclencheur d'écriture, mais...
Mais en même temps, j'ai vraiment été la pire. J'ai jamais écrit de bonne fiction. Jamais. C'est un échec lamentable. J'ai écrit des débuts de romans, je tuais le personnage au bout de 10 pages. Ce que j'écris le mieux, à date dans ma vie, selon mes propres critères, c'est des courriels. Grand talent pour écrire des courriels.
Benoît Malençon, tu dirais te lancer dans l'épistolaire, mais bon. On va laisser à chacun leur rôle. Mais je vais revenir à l'idée du ne serait-ce que le titre de ton prochain livre, qui est un signe très fort d'intertextualité. L'intertexte, ça fait longtemps qu'on en parle. Les formalistes québécois l'ont utilisé abondamment. Dès que la notion est apparue sous la plume de Kristeva, plusieurs s'en sont saisis pour l'amener de tout bord, tout côté. Il y avait une certaine tradition dans les années 70 de donner la source de certains intertextes. Parfois, non. Toi, dans ton cas, c'est complètement assumé. On est vraiment dans... Tu phagocytes complètement l'intertexte et tu remarches. Mais d'un point de vue de l'écriture, d'un point de vue de ta posture, comment est-ce que tu... Pas tant que tu défends ça, je crois que c'est très défendable, mais comment tu assumes cette manière d'avaler carrément des phrases des autres?
Ça, c'est un autre bouclier derrière Jean Duchamp. Bravo.
C'est ma tentative d'être cohérent, parfois.
Ben, l'intertextualité, c'est compliqué. Moi, j'ai eu des cours là-dessus, là. C'est juste à l'université. Je pense que ce que j'ai compris, c'était qu'on n'y comprenait pas grand-chose, finalement, parce qu'il y a une certaine façon de voir les choses qui est du point de vue de la lecture, finalement. C'est-à-dire probablement que toi, Jean-Simon Desrochers, qui a lu je ne sais combien de livres que je n'ai pas lus, tu me trouves des intertextes avec Huguette Gaulin que je n'ai jamais lu. T'as raison, là. Finalement, en lisant Huguette Gaulin, je suis un peu troublée parce que Huguette Gaulin qui a publié des poèmes seulement dans les années 70, je partage une certaine façon de créer des images avec elle. C'est quand même troublant, mais bref, je n'en sais rien de ce qui me traverse et à partir du moment où, par accident, j'ai sûrement déjà cité Nelly Gant, cité Duchamp que je lis un peu trop, c'était la toune que j'écoutais trop. J'ai eu un épisode de ça récemment. Je suis en train de travailler sur des nouveaux poèmes et je me suis rendu compte que j'avais la même formule comme 8 fois. 8 fois, la même maudite formule. Et c'est parce que la formule est dans une chanson que j'écoute tout le temps. Ces choses-là arrivent. À partir du moment où ces choses-là arrivent, au moment où j'arrive devant un de mes poèmes que je trouve qu'il y a un trou, ça arrive. Puis il manque de quoi? De fou. Je vais prendre l'exemple du premier poème du livre. C'est pas pour rien que j'ai cité du charme. Hein. J'en parle beaucoup ce soir. Je sais plus c'était quoi, mais c'était pas « Je n'ai pas mangé le lion, je ne vais pas au front jeter le cadavre ». Ce n'était pas ça. C'était une image pas bonne, c'était une image répétitive, c'était bon. À un certain point, je sais pas si c'est moi ou si c'est François Hébert qui m'a dit « C'est pas ça ». Puis je la trouvais pas l'image. À ce moment-là, je ne vois pas pourquoi je n'ouvrirais pas un des livres que je vais citer sûrement par accident de toute façon pour trouver la formule qui m'intéresse dedans.
Donc, c'est de prendre la littérature existante comme une matière aussi.
Oui, mais ça, elle l'est, de toute façon. C'est juste assumer cette impuissance devant les textes qui nous traversent, je pense. Mm-hmm. J'écris un peu un essai là-dessus, mais il ne sera jamais publié. Je vous promets.
Mais la musique dans les années 90, à partir du moment où l'échantillonnage s'est démocratisé, on a vu ça de façon quasi systématique aussi dans... dans plusieurs façons de faire. Il y avait un groupe qui s'appelait Cold Cut qui faisait de la vidéo et qui, à partir de vidéos et de sons, recréait des collages complets musicaux. Donc, la notion aussi du collage me semble très, très importante dans ton rapport à l'intertexte, qui fait partie d'une culture qui est en phase avec l'époque où moi j'ai commencé à émerger comme écrivain, mais que je vois qui continue aussi chez plusieurs autres personnes. Je crois que Chloé Savoie-Bernard, que tu nommais, travaille aussi beaucoup l'intertexte à sa façon.
Mais vraiment pas de la même façon que moi, puis c'est très intéressant. On peut-tu le refaire juste comme Chloé puis moi?
Je ne peux pas me transformer en Chloé Savoie-Bernard, malheureusement. À moins qu'elle soit dans la salle et disponible.
Non, elle déménage, elle est sur sa belle poule. Ça va être enregistré pour la douce.
On peut éditer la dernière partie. Est-ce qu'on peut faire des réécritures? Non, on ne peut pas. J'ai pas signé pour ça. Un peu de sérieux quand même. Mais c'est tout simplement pour dire, moi, c'était pas, il n'y avait aucune forme de jugement de valeur sur ce rapport à l'intertexte. C'est vrai que c'est une alchimie un peu complexe quand on rentre dans la théorie de la chose, mais en gros, on peut résumer tout ça comme étant le mot étant la matière de l'écrivain. Tout mot existant est une matière potentielle. Il n'en tient qu'à l'écrivain de se l'approprier et de la détourner à bon escient. C'est pas vraiment de question, c'est moi
qui réponds. Non, c'est moi qui acquiesce. C'est moi qui dis oui, en effet.
Mais tu parles aussi de forme très souvent. Moi, je crois que tu pratiques une poésie qui est très, très héritière du formalisme. Tu pourrais peut-être me dire le contraire, ne serait-ce que parce que tu as découvert Huguette Gaulin après avoir écrit Ciseaux, alors qu'il y a des liens qui sont très nets pour moi dans ces pratiques. Mais il y a un rapport à la forme, à tout le moins, qui est très important dans Ciseaux. Et comment est-ce que tu as défini ce rapport-là à la forme? Comment est-ce que la forme est devenue un objet esthétique et une manière de penser le poème?
Je pense que à un certain point, il y a quelque chose qui s'est déplacé pour moi de nommer exactement ou évoquer exactement vers l'étonnement. Je pense que l'étonnement est la clé de mon rapport à la forme. Ce que je disais que je fais là, ce que je fais quand même souvent, c'est-à-dire aller voler des petits bouts de poèmes ou de paroles ou de... Ben, c'est souvent très textuel, là. C'est rare que je vole, mettons, je sais pas, là, je vole pas des images, je regarde pas des toiles, puis je me dis je vais réécrire ce que ça représente, parce que malheureusement, on est peu imaginatif dans ce temps-là, en tout cas moi. J'ai pas accès à tant de mots que ça, là, vite de même. Mais c'est ce qui donne l'intérêt de la réécriture, qui est une chose que je pratique très assidûment. C'est-à-dire les poèmes, quand ils naissent dans leur première forme, ils sont une chose. Puis j'espère vraiment beaucoup qu'ils vont devenir autre chose à mesure que je vais les retravailler. Et si je les retravaille, c'est parce que j'espère qu'à un certain point, ils vont devenir cette étrange combinaison de « c'est exactement ça » et de « qu'est-ce que c'est que ça ?» Je pense que c'est ça.
Non, mais on va creuser ça un peu, j'ai l'impression.
Peut-on?
Bon, on va essayer. Qu'est-ce qu'une image réussie, par exemple? Qu'est-ce que c'est qu'une forme qui fait dire c'est ça?
Oh, c'est deux choses différentes. Mais en même temps, non. Et je pense qu'il y a on pourrait peut-être, si mettons j'avais vraiment envie de faire ça, là, je pourrais essayer de le définir en calculant la quantité de distance par rapport à la vraie chose qu'on aurait dite dans cette situation-là. Mettons, quand je dis une hanche, je dis pas et demi. Après, d'habitude, je dis une hanche ou deux ou une hanche cassée, mettons. Et non, ben, une hanche et demi, c'est peut-être un bon exemple, mais c'est pas une image si haute que ça. Je l'aime quand même.
Mais c'est une image qui étonne.
Je la comprends parce que je comprends qu'on veut dire une hanche cassée. C'est drôle, je parle de moi-même, c'est vraiment bizarre. Je comprends que chose, elle, je, veut dire une hanche cassée, peut-être, ou pas, ou veut dire qu'il manque quelque chose. Mais c'est étonnant parce qu'habituellement, les demi-hanches, ça n'existe pas, parce que c'est pas une chose qui se divise au milieu, puis c'est pas une pizza. Je pense que c'est la combinaison, c'est un point quelque part entre ça n'a aucunement rapport et pourtant on comprend. Puis. Ce qui m'a beaucoup aidé à comprendre mon propre rapport aux images, parce que c'était vraiment pas, je vous l'annonce, ce ciseau n'était pas aussi hot que ça avant de passer entre les mains de François Hébert qui m'a dit « ça non, Roxane », une fois de temps en temps. François Hébert m'a beaucoup aidé à... Enfin, c'est drôle que je... François Hébert m'a beaucoup aidé à comprendre mon rapport aux images, parce que le mot qu'il utilisait pour me dire ça, ça marche pas, c'était... En fait, en m'amenant à travailler mon image, il me disait ça, c'est fermé, ouvre-la. La façon dont moi j'ai compris ça, c'est qu'une image fermée, c'est une image soit évidente, soit qui existait déjà avant que tu essaies de l'écrire. Ce qui est un peu la même chose. Et une image ouverte, ben il y a de l'étonnement, mais il faut que ce soit un étonnement qui est encore attaché par un petit fil. C'est comme les dents des enfants. C'est quand tes dents branlent, puis là, elle tient encore juste un petit peu. Je pense que c'est mon image qui va définir mon rapport à l'image, ce soir.
Une image dedans qui branle pour définir une image. C'est pas mal. Mm-hmm. Mais l'idée de... En fait, moi, ce que je comprends derrière tout ça, c'est que c'est un peu comme si tu cherchais à garder tout ce que tu pouvais du sens admis de certaines formules et de les dynamiter juste au bon moment pour pouvoir les retourner, voir l'effet inverse, le revers de la chose, essayer d'arriver au-delà d'une image pour ce qu'elle... a en potentiel très souvent. C'est ce qui m'a étonné dans ta manière de travailler le texte dans Ciseau, c'est qu'on ne peut pas soupçonner où le poème nous amène. On est obligé de le suivre. C'est un contrat de lecture qui est très exigeant, mais qui est une exigence qui nous rive au langage, qui nous colle au poème, qui est un effet qui est, à mes yeux, directement en lien avec les exigences du formalisme où on doit être collé au langage, on doit accepter ce que le poème nous livre. Et de voir cette exigence-là apparaître, parce que quand c'est apparu dans les années 70, on était là dans les années post-telles-quelles, on était là dans un climat intellectuel très contestataire, il y avait une volonté de justement laisser le sens au lecteur complètement, et de voir ça se manifester de façon, je dirais pas spontanée, mais à travers une somme de lectures très organiques et beaucoup de refus, ça me fascine un peu de voir comment est-ce que cette exigence-là a pu apparaître et avoir un écho quand même aussi fort avec ces pratiques-là. Donc c'est un peu, moi le problème, Roxane Desjardins, pour moi, parce qu'il y en a plus qu'un, j'ai l'impression, mais le problème, c'est, on va le régler, non quand même pas, le problème extrêmement producteur de sens, à mon avis, c'est que le poème est toujours là, peut-être, pour surprendre ou nous saisir. Mais est-ce que toi, c'est ce que tu te demandes? Est-ce que tu cherches ce saisissement?
Absolument. Absolument. Je m'attends à ce que mes poèmes soient beaucoup plus compliqués que ce que je suis moi-même capable de faire, d'où le fait qu'il y a d'autres personnes impliquées dans mon écriture, au sens où je me fais relire. Et des moments impliqués dans mon écriture, mais je vais revenir, en fait, je vais pas répondre à la fin de ta question, je vais répondre au cœur de ta question. Je ne la reformulerai pas parce que ce serait un problème, parce que c'est difficile de faire des longues phrases, mais j'ai peut-être un autre morceau de réponse qui va encore plonger ses racines dans mon enfance, dans une anecdote récente, une conversation que j'ai eue avec Jean-Michel et Émile, et l'Oulipo. Alors...
Jean-Michel, Émile et Loulipo.
Oui, ben non, la conversation, je ne l'ai pas eue avec Loulipo, malheureusement. Alors, Loulipo a créé, à un certain point, un jeu très amusant, formellement, qui consistait à prendre un texte et remplacer les substantifs par, je pense que ça s'appelle substantif plus 8.
Est-ce plus 8?
Plus 7. Bon, c'est plus 7, excusez.
Pour ce que ça change,
hein, tu ouvres le dictionnaire, tu vas 7 mots plus loin, 8 mots plus loin, peu importe, tu mets le mot qui était là. Moi, j'ai découvert ce jeu-là, non, évidemment, par Loulipo, parce que je n'ai eu que des lectures de jeunesse, si on entend notre échange d'aujourd'hui. Fait que j'ai découvert ce jeu dans un livre jeunesse, qui s'appelle Granulite, de François Gravel, où c'est une grand-maman qui montre exactement le même jeu à son petit-fils, puis ça rend vraiment ses vacances d'été moins plates. Je le conseille à tous, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et je pense que c'est la façon dont je construis encore mes images maintenant, mais sans l'aspect hasard, au sens où il y a un lien de sens. Donc c'est en temps, je pense, de déchiffrer mes images, ce qui fait peut-être que certains se cassent le nez sur mes poèmes et certains non. Mais si on reprend une autre image que tu as citée tantôt, des baleines descendent de mes yeux. Pour moi, c'est évident que les baleines, c'est des grosses larmes. C'est pas tant différent d'une baleine d'une larme, si tu y réfléchis un peu. du point de vue de la forme, là, une lampe, c'est faite comme ça. Une baleine, tu la revires de bord, c'est un peu fait comme ça aussi, hein? Il y a toujours une explication possible. Donc, je pense que j'ai fait du S plus 7. Mais du point de vue du sens. Donc, le sens n'est jamais loin, quand même.
Mm-hmm. Il y a un autre côté à ta pratique qui est devant toi présentement, qui sont les deux zines que tu as produits avant Ciseaux, celui que tu as réalisé. En fait, les deux que tu as fait, oui, tu peux les faire circuler, je crois bien. Les deux premiers que tu as réalisés avec l'artiste Coco Simone Finken et le plus récent que tu as co-réalisé avec Félix Durand. Et j'aimerais juste entendre parler davantage un peu sur cette... les deux premiers sont des zines, mais on est plus près du livre d'artiste dans la définition que j'en ai. Je crois qu'Anne-Mogline Delcroix serait tout à fait d'accord avec moi là-dessus. Et la même chose, encore, c'est encore plus flagrant dans Avant le geste, qui est
presque... Le plus récent, je vais vous le passer aussi, là. C'est un rouleau, il est lourd, faites attention.
On est clairement plus dans le livre objet, donc peut-être pour les gens qui vont nous suivre sur Spirale, il s'agit d'un tube de métal sur lequel est enroulée une bande de papier où des poèmes ont été imprimés sur une bande d'environ, je dirais, un mètre. Donc voilà, c'était mon moment ekphrasis de la soirée. Et ça laissait le temps à Roxane de revenir s'asseoir. Double stratégie. Je casse la magie comme phasin. Désolé, Radio Spirale. Donc, pourquoi est-ce que cette pratique-là, visiblement, te semble très, très nécessaire? C'est une manière que tu ne peux pas disloquer. Donc, est-ce qu'il y a une part de jeu? Est-ce qu'il y a une part de... Qu'est-ce que tu vas chercher dans cette pratique du livre?
Certainement la liberté de faire un livre au complet de A à Z. Certainement aussi, jusqu'à maintenant, je n'ai fait ça qu'en collaboration et ça me semble être la bonne façon de continuer. C'est difficile de co-signer un livre dans la vie, puis c'est difficile aussi de faire un livre point. Là, jusqu'à maintenant, j'ai seulement réussi à en faire un. Pourtant, j'ai beaucoup envie de collaborer avec... ma première collaboration, c'était avec une artiste visuelle qui a fait aussi la couverture de Ciseaux. La deuxième, c'était avec Félix, qui est un poète. Ces collaborations-là, j'ai envie de les faire. Puis j'ai pas nécessairement envie que ça se rende jusqu'à être un livre, parce qu'un livre, c'est un projet de longue haleine. C'est très grave, faire un livre. On le met dans ta bibliographie, là, déjà paru, machin. Bref. Puis faire un livre, c'est quand même à ne pas négliger. Là. Ça passe par un éditeur dans l'absolu. Éditeur qui, et je trouve ça tout à fait adéquat, a le loisir de choisir le texte, de suggérer des modifications dans le texte et de choisir de quoi ça va avoir l'air et de s'occuper de le mettre en librairie. Après, le livre, il ne t'appartient absolument plus. Bon, fanzines non plus ne m'appartiennent plus au sens où quand je les ai faites, je les ai vendues, c'est réglé, mais je les ai fabriquées, je les ai conçues. Et cette conception, évidemment, est très importante pour moi. Là. C'est difficile, il y a beaucoup de morceaux qui sont importants. Mon père imprime des... Comment on dit ça? Mon père est entre autres imprimeur. Ma mère est correctrice. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup sentir le papier qui sortait des imprimantes. Et mon papa me parlait souvent de grains de papier, de choses que... Bon, même moi, finalement, je ne connais plus trop ça, mais ça me fascine complètement. Fait que le papier, ça me fascine. Écrire à la main, ça me fascine aussi. Ça fait partie des choses qui m'intéressent. La typographie m'intéresse. L'interaction entre le texte et les images m'intéresse. La façon dont on manipule un livre m'intéresse. Et toutes ces choses-là sont très difficiles à explorer dans un livre. Aux Herbes Rouges, en Times New Roman 12. J'aime full les Herbes Rouges, mais pour vrai, je ne pense pas à la typographie quand j'écris un livre qui est destiné aux Herbes Rouges. Oh non, sauf!
Sauf!
Sauf! Sauf mon prochain livre qui est écrit à la main, et je ne m'attendais pas du tout sincèrement à publier aux Herbes Rouges, mais il se trouve que François Hébert a voulu y embarquer. Je suis très chanceuse. J'étais vraiment prête à faire un fanzine avec ce projet-là. Comme c'est mon mémoire de maîtrise, il est écrit, là, ça fait 80 pages. J'avais une soumission de tel petit imprimeur, j'allais en faire une centaine, puis ça allait finir là. C'était ça mon plan. Puis finalement, François voulait lire, parce que François est un éditeur assidu et intéressé. Il voulait savoir qu'est-ce que j'avais fait, que je disais, toi, tu vas pas aimer ça. Et finalement, donc. Je viens de me faire mentir moi-même, mais reste que, dans l'absolu, je pense pas que François s'attend à ce que je dise. J'aimerais que celui-là, tu le fasses, s'il te plaît, en Franklin pour ces mots-là, puis en Arial pour ces mots-là, puis en Helvetica pour ces mots-là, puis que ici ça soit plié. Bref, cette liberté-là, je ne peux l'avoir que dans le fanzine. Et j'aime aussi être toute seule à la barre. C'est un peu ça. Je veux dire, dans la comme c'est des collaborations, c'est déjà compliqué. Pas s'entendre, là. Je veux dire, je vais parler particulièrement de mon travail avec Félix parce qu'on a travaillé ensemble sur des textes. Mais cette rencontre-là, elle aurait été extrêmement différente s'il y avait eu une tierce personne pour nous dire, ne serait-ce que pour commenter nos textes, alors que là, on a travaillé ensemble à concevoir un objet avec les moyens qu'on avait, avec les idées que Félix avait d'emblée quand il m'a proposé, dans le fond, comment ça s'est passé là, avant le geste. C'est que Félix m'a dit, je voudrais faire un fanzine, j'aimerais que ça soit écrit à la main, je sais pas trop à qui demander. J'étais en train de faire mon mémoire en création où j'écrivais tout à la main. J'ai dit, ben là, je pense que ça veut dire que tu me le demandes à moi. Et ainsi, de fil en aiguille, en ayant envie de lire les textes puis de travailler un peu sur les textes avec Félix, parce que finalement, il faut quand même dire qu'on s'est rencontrés, Félix et moi, à l'origine au PIC, qui est la revue étudiante des littératures de langue française à l'Université de Montréal et qui est un lieu où le travail des textes est beaucoup mis en valeur. Donc, on s'est déjà rencontrés dans ce contexte-là. J'avais déjà travaillé avec Félix sur de ses textes. Ça a été quand même des bons moments. Je pense aussi que t'avances. Je m'adresse à Félix en ce moment. Félix avance dans sa poésie, selon l'image de Gaston Miron que j'aime beaucoup comme un cheval de trait. Mais finalement, on a co-signé. On s'est dit, on a tellement travaillé sur les textes ensemble. J'ai volé des vers à Félix. J'ai fait d'autres poèmes. Il a enlevé des poèmes. J'ai mis des poèmes à moi. Je me rappelle encore, je pense, qu'il a écrit quoi, mais à un certain point, j'espère l'avoir oublié.
Est-ce que je...
Oui, Félix, ça l'a fait valer des verres.
Mais ce qui est généralement le signe d'une collaboration réussie, c'est quand on n'arrive plus à retracer qui, qu'est-ce qui vient de qui, et qu'on ait simplement un texte qui est là et qui vit par lui-même aussi, je crois. C'est un peu aussi ce qu'un bon éditeur va chercher à faire, c'est d'avoir un travail qui apporte au projet. Parce que tu parles quand même beaucoup de François Hébert, qui est ton éditeur. Qui est l'éditeur des gens que tu... Tu parles de Denis Vanier, tu parles de Roger Desroches, du Guette Gaulin, c'était l'éditeur de ces gens-là.
Absolument. Je suis très honorée de travailler avec François Hébert. Je vais le dire pour que ça s'enregistre.
maintenant qu'il a un iPad, il pourra peut-être t'écouter. c'était plus moi qui s'adressais à lui.
J'aimerais qu'il m'écrive un courriel pour me féliciter.
Ça prend 15 ans ça prend une quinzaine d'années d'ancienneté, j'ai l'impression. Mais quel est ton rapport justement avec cet éditeur et quel pouvoir est-ce que tu lui laisses en rapport? Plutôt, qu'est-ce que tu retiens de ses conseils et qu'est-ce que tu rejettes d'emblée?
Je ne rejette aucun conseil de François d'emblée parce qu'en général, je suis susceptible quand j'ai rencontré François parce que François a quand même une façon de livrer ses commentaires. Lui, ça te... Mais tu sais, on fait toujours un peu... C'est un travail qui peut faire chier. C'est-à-dire, quand je prends ton texte, puis je te dis, j'ai trouvé telle bébite dedans, tu devrais revoir ça, puis si on ne comprend pas ce que ça veut dire, en général, ça peut être un peu déplaisant. Et la technique de François Hébert pour faire passer le fait que ça va être peut-être un peu déplaisant, c'est d'être ironiquement déplaisant jusqu'au bout. Fait que non, jamais, ne jamais rien rejeter d'emblée, parce que peut-être qu'après-demain, ça va vouloir vraiment dire quelque chose de pertinent. Mais cela dit, François a quand même une limite. Je veux dire, j'ai beaucoup parlé de comment il m'a fait retravailler. Il n'a pas transfiguré Ciseaux. Puis si Ciseaux a été transfiguré pendant le retravail que j'ai fait avec François, ce n'est en rien par la main de François. Tout ce qu'il a fait, c'est me pointer des choses qu'il trouvait qui clochaient. Et seulement concernant, et nous y revenons, la forme. François ne commente pas le sens. D'ailleurs, il aurait été quand même mal pris de commenter le sens parce que le sens n'était pas tout à fait apparent dans mon manuscrit d'origine non plus. Mais donc, s'il me dit cette image est obtuse, en général, je vais m'organiser avec. Puis je pense qu'il il a eu la bonne... je veux dire le bon instinct, mais il sait très bien ce qu'il fait au sens où... il ne m'aurait pas amené devant des problèmes. À un certain point, on commence à se connaître. François ne m'amènerait pas devant un problème dont il sait que je ne peux pas le résoudre et qu'il va me démolir. Ce qui peut arriver, c'est quand même... c'est un travail très difficile. On essaie... J'espère que ça change en vieillissant, mais à l'origine, en tout cas, dans mon travail de ciseaux, ça a été vraiment important. C'était comme s'il fallait que ce soit moi, ce livre-là, puis que ce soit la chose la plus vraie sur moi. Puis finalement, bon, évidemment, pas là. Mais à la fois, ça, tu sais, je vais dire, je viens de passer comme une heure à dire que j'aimais beaucoup l'étonnement puis que je voulais que les choses m'étonnent, mais tout de même, je n'arrivais pas à me défaire de cette vision de mon premier livre comme de le reflet le plus absolu de ce que je suis capable de faire, de dire et de la chose qui donnait le plus de sens à mon existence. C'est sûr que dans ce contexte-là, te faire dire ton image est plate, ça peut être très blessant.
Il y a toujours cette idée-là aussi que le premier livre sera peut-être le seul qui met une pression en général assez considérable.
Sûrement peut-être plus à l'éditeur qu'à l'auteur, parce que moi, au pire, c'est mon seul livre. J'allais faire d'autres choses de ma vie, mais je sais pas.
Mais ce que je remarque dans ce que tu m'énonces, dans tout ça, tant avec à un autre degré pour les vrais livres, entre guillemets, comme si les livres d'artistes étaient moins des livres, ce qui n'est pas du tout le cas, mais la collaboration à divers degrés est centrale et la notion de dialogue, d'échange semble vraiment très importante. C'est un peu comme si tout se constituait dans un rapport où tu dois repousser le texte et le revoir avec mille et un commentaires ou une vision différente. Donc c'est un peu comme si tu lançais constamment des objets qui te revenaient sans cesse.
Oui, mais je ferais des choses vraiment moins bonnes si j'étais toute seule devant, évidemment. Parce qu'on pense toujours qu'on se comprend. On se comprend très bien soi-même. C'est pourquoi j'aime beaucoup lire mon journal intime, mais je n'aime pas lire le journal intime de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi j'ai besoin d'autres personnes. Je veux dire, les poèmes, on les écrit pas nécessairement comme des journaux intimes, mais c'est ce sens-là de faire référence à sa propre histoire. Là, j'ai écrit ce poème-là, il me fait vraiment penser au jour où je l'ai écrit, fait que je l'aime à cause de ça. Il faut sortir de ça, puis pour moi, la façon de sortir de ça, c'est forcément d'avoir recours à d'autres lecteurs. Mais après, c'est pas juste ça, je pense. Je sais pas, c'est peut-être une question d'époque. Là. Moi, vous savez, moi, j'ai rencontré la mort de l'auteur pendant mes études. Ça a été très, très choquant. Non, mais je pense quand même...
Le cadavre était déjà bien sec.
Ouais, le cadavre était sec, mais moi, j'avais quand même 20 ans. Fait que pour vrai, quand t'as 20 ans et que l'auteur est mort, l'auteur vient quand même juste de mourir. Chaque personne qui apprend la mort de l'auteur a un petit choc parce que t'as été aussi un lecteur de livres jeunesse. J'en ai vraiment beaucoup parlé ce soir. C'était comme si c'était... parce que ma mère est devant moi, pour vrai, c'est juste à cause de ça. Mais oui, mais moi, j'ai tellement fait signer là, au Salon du livre par les auteurs. Je pensais que les auteurs étaient... Je pensais que les auteurs faisaient des œuvres.
Mais non, ils étaient morts.
Mais non, mais en réalité, ils étaient morts.
Okay. Mais maintenant que tu es auteur aussi, j'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Mais bon,
le corbillard s'en vient. Ce que je veux vraiment dire, en fait, c'est que je pense que je suis, et je vais le dire, d'une génération. Pour qui c'est pas possible de faire semblant qu'on crée tout seul. Je pense que c'est ce qui explique aussi le fait que Chloé Savoie-Bernard, dont on a déjà parlé, qui a une pratique de la citation très différente de la mienne, est aussi une pratique de la citation. Bien, je veux dire, on n'est pas... On n'a pas un travail très semblable. Chloé et moi, on explore un peu des zones différentes de la poésie avec des outils semblables et parfois des images semblables, mais c'est peut-être un effet d'époque. C'est peut-être un effet d'avoir fait son bac.
Mais vous venez aussi de la même culture du foisonnement où tout est disponible dans un téléphone, où on peut avoir un contact avec une culture, avec la culture et différents types de cultures constamment au-delà de notre capacité d'absorption. Donc, à la rigueur, oui, il y a une très grande logique, une très grande cohérence d'être conscient de cet aspect collaboratif et de la nécessité de tisser des liens autour de certains doutes. À mon avis, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un réflexe très sain, un réflexe d'ailleurs qui t'a mené à passer de l'autre côté. Parce que non seulement auteur, mais aussi Roxane Desjardins est éditrice depuis, là, tu me corrigeras, depuis presque un an.
Non, moins que ça.
Moins que ça, donc.
Mais j'ai fait une brillante carrière au PI avant.
Donc tu es maintenant, c'est ça, c'est depuis quoi, 6 mois environ?
Oui, depuis le début de l'automne, j'édite la poésie chez le Lézard amoureux. Et je fais partie, en fait, d'un très beau projet de transmission intergénérationnelle de maisons d'édition. Ça va tout ensemble, hein? La collaboration, c'est aussi une façon de voir l'édition là, dans les circonstances, parce que le Lézard amoureux fait partie, depuis sa naissance, appartient ou est un morceau des éditions Nota Bene. qui ont aussi, au cours des années, acheté les éditions Varia. Et aujourd'hui, dans le fond, on est devant la création imminente d'un groupe qui va aussi comprendre les éditions Triptyque. Donc, on va être une maison d'édition à 4 ou 5 morceaux, parce qu'en fait, on est en train de créer aussi une collection poche qui va être indépendante. Et dans cette multiplication de maisons d'édition, il y a 4 maisons. Il y a aussi une équipe composée de plusieurs personnes, certaines qui arrivent, certaines qui sont là depuis longtemps. Et c'est le dialogue qu'on entretient, premièrement, en mettant ensemble des éditeurs d'essais de poésie et de romans. Deuxièmement, en mettant ensemble des éditeurs issus du monde de la revue, issus du monde du théâtre, issus du monde de la poésie, issus du monde de l'essai. Bon, tout ça aussi, ça fait partie de cette impression que nous avons de ne pas avoir toutes les clés, d'avoir besoin aussi de confronter nos idées. Puis pour moi, donc ça, c'est un morceau important. Il fallait que j'en parle en premier, parce que sinon personne ne comprend rien dans la transition. Je l'admets, c'est un peu compliqué. Mais ensuite, et secondairement, je travaillais déjà dans l'édition avant de devenir éditrice. Je travaillais déjà avec Champagne et Jeannette Abbéni, et j'aimais beaucoup ça. Et à un certain point, ça me semblait absolument inévitable que j'en vienne à faire, et j'aurais d'énormes guillemets pour dire « mes livres », au sens où... j'imagine que ça doit être une chose qui m'est propre, mais pour moi, c'est vraiment le fun de faire des choses, des tâches plates du monde de l'édition, comme envoyer un livre chez l'imprimeur. J'ai fait ça aujourd'hui, c'était vraiment un bon moment dans ma journée.
C'est un moment très libérateur en général.
Beaucoup de high-fives dans ma journée pour vrai. Je suis très contente. Fait que ça, c'est le fun. J'aime ça, tu sais, regarder la dernière épreuve puis me dire, OK, ça y est, il n'y a plus de coquilles. Mais ce moment est beaucoup plus, beaucoup alimenté, nourri et amélioré par le fait que ce texte, je l'ai vu dans sa forme originale et j'ai rencontré l'auteur et accompagné l'auteur dans son déplacement vers sa forme de livre. Puis pour moi, je sais pas si c'est peut-être un peu bizarre, mais pour moi, la mise en page, puis faire une couverture, puis éditer le texte, ça va tout ensemble. C'est tout le même, c'est le même mouvement. Puis, bon, évidemment que c'est très secondaire, puis c'est très... Je veux dire qu'on a une maquette de couverture, puis j'ai déjà fait faire par le graphiste avec le titre, puis là. Mais tout ça, c'est finir. Puis c'est finir un objet qui était si mouvant et si instable, et cette chose qui me fait complètement paniquer, qui est les manuscrits pas finis. Puis c'est l'amener jusqu'à un point où on se dit, ça y est, on peut le lâcher. Puis ce geste-là me semble absolument formidable.
Mais il y a quand même, on le voit peut-être, dans la plus récente génération, je pense à Mélanie Vincelette, qui a les deux chapeaux, qui est à la fois auteure et éditrice, Olga Duhamel également, qui joue ce rôle. Dans les générations antérieures, je peux penser à Normande Bellefeuille, qui a fait les deux rôles. On peut penser à Gaston Miron, mais Gaston Miron lui-même aurait dit « mais je n'ai fait qu'un livre », et demi, en rajoutant courte pointe peut-être. Mais moi, c'était lui-même qui disait ça, donc je n'invente rien. Il y a peu d'auteurs qui ont osé assumer les deux rôles. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ou pour toi, c'est quelque chose qui fait partie d'un même souffle, d'une même manière de travailler ce qui t'intéresse avec le langage et tout ce qu'il fait vivre, en fait?
Je pense que la seule menace de la cohabitation du travail d'éditrice et du projet d'écrire des livres, c'est la menace temporelle. Genre, je travaille trop, j'ai pas le temps d'écrire. Parce que, outre ça, et je vais y arriver, je tiens à le dire publiquement, je vais y arriver. J'y arrive très bien jusqu'à maintenant. Outre ça, je veux dire, j'ai quand même bien, je pense, énoncé à quel point la collaboration était importante et stimulante pour moi. Et à ce titre, rencontrer des textes, non seulement dans leur version finale, par exemple, en lisant des livres qui sont déjà parus, mais aussi dans leur moment mouvant, et travailler à développer, c'est à la fois, je dirais être éditrice, finalement, c'est développer des outils de lecture aussi, là. Développer un œil critique par rapport au texte pour trouver les choses qui pourraient clocher et trouver des solutions à suggérer ou pas. Et observer comment l'auteur se débrouille aussi avec le problème qu'on vient de lui montrer. Tout ça, pour moi, ça participe aussi de devenir une meilleure écrivaine, si devenir une meilleure écrivaine est possible. En tout cas, continuez d'écrire des livres.
Oui, c'est la seule façon de tenter d'y parvenir. Je vais ajouter Paul Bélanger du Norrois aussi à ma liste, sinon je vais m'en vouloir demain matin. encore peut-être?
Marcel Hébert.
C'est très peu de pages. Son œuvre complète tient environ à 57 pages, si je me souviens bien. Mais quelle œuvre?
Oui, mais en ce moment, je voudrais dire que mon œuvre complète tient à 74.
C'est déjà plus que Marcel Hébert. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de titres. Rapidement, peut-être avant de vous laisser la parole pour les questions, simplement une question toute simple, mais présentement, quel auteur, quel livre retient ton attention? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce qui t'a marqué récemment? Qu'est-ce qui t'intéresse?
La préface de Roger Desroches à Je, de Denis Vanier. Non, je dis ça, mais Roger Desroches est probablement l'auteur qui me fascine le plus. J'ai pas encore fini du tout de lire ce qu'il a écrit jusqu'à maintenant. Mais j'ai lu récemment de ses plus anciens textes et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Je le trouve absolument étonnant. Fait que c'est sûr que Roger Desroches, c'est un gros morceau. À part ça, dans les plus... c'est difficile, hein? C'est vraiment difficile. J'ai l'impression que c'est une question où il faut que je réponde comme si j'étais cette adolescente que je fus perchée dans... la maudite étagère de l'échange, à essayer de trouver, tu sais, le parfait livre, alors qu'il n'y a pas de parfait livre, mais parmi les, mettons, les livres qui sont sortis cette année, il y a des livres qui sont complètement étranges et formidables et que jamais j'écrirais ça, je suis complètement mystifiée, je ne sais pas c'est quoi, mais par exemple, Chasse aux licornes de Baron Marc-André Lévesque, qu'est-ce que c'est que ça, dis-tu-là? C'est quoi? Je comprends pas. Je suis fascinée. Je trouve ça formidable. J'ai beaucoup de plaisir. Il y a un lyrisme, il y a un élan. Et ce livre, bien qu'il me soit tout à fait mystérieux, a des choses à m'apprendre. J'ai nommé juste des hommes. C'est mal. Fait que là, je veux dire que j'attends avec beaucoup d'impatience le prochain recueil d'Annie Lafleur, qui est une poète qui fait des images autrement plus étranges que les miennes, je dois dire. Et qui me surprend beaucoup encore. J'ai fait juste une liste de poètes qui m'étonne. Hein?
Mais t'as nommé Huguette Gaulin aussi.
J'ai nommé Huguette Gaulin, qui n'est malheureusement pas ma contemporaine, je dois dire. Je peux nommer aussi le dernier Carole David, parce que c'est un livre qui me tombe beaucoup dans la tête, et qui m'obsède beaucoup pour l'écriture du prochain. Ça s'appelle L'année de ma disparition, et je vous le conseille tous.
Écoute, je crois que c'est à ce niveau-là. S'il y a des questions qui ouvre les lèvres. Il y a un micro juste là, donc je vous invite à prendre place et à ne pas penser pendant 4 minutes à le faire, sinon je vais devoir remplir le vide pour ne pas avoir du dead air, ce qui est vraiment une infamie quand on écoute. Donc, est-ce que vous avez une question ou un commentaire pour Roxane? Tout a été à ce point limpide?
Non, je pense que c'était vraiment compliqué ce que j'ai dit. Dites-moi que vous avez des questions. S'il vous plaît.
Ah, mais voilà.
J'aimerais ça savoir pour... là, tu as déjà ton projet de mémoire qui est en chemin pour une publication, mais j'aimerais ça savoir si tu allais, encore une fois, peut-être pour un prochain projet, essayer d'exploiter la spatialité, encore une fois, le rapport des mots dans l'espace, ou bien ça va, c'est fait, on passe à autre chose. Ça va certainement pas, c'est pas fait, c'est même peut-être un peu raté dans celui-là, mais j'ai clairement besoin de prendre une pause d'écrire des choses à la main en ce moment. Le temps aussi, là, peut-être que ça serait la sorte de projet qui aurait besoin d'une petite résidence d'écriture, ou je sais pas trop, là, j'envoie mes souhaits dans les airs. Okay. Non, mais ça m'intéresse encore vraiment beaucoup. J'espère vraiment, en fait, je suis très très contente d'avoir la chance de publier ce texte-là, parce que j'espère qu'il va y avoir un échange autour de ça, parce que, enfin, j'ai quand même conçu cet objet à l'université auprès de personnes qui étaient beaucoup plus habituées aux formes plus standards de la poésie et de la narration, et j'ai l'air de dire que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent sur la bande dessinée à l'université. Et c'est formidable d'avoir eu des interlocuteurs qui étaient justement assez nouveaux par rapport à ça pour, dans le cadre de la création de mon mémoire, mettons, avoir un regard neuf. Mais j'ai quand même beaucoup d'espoir. Là. J'aimerais ça comme qu'on en parle, là, qu'on se demande. Parce que, enfin, dans mon esprit, ce projet-là, parce que les mots sont encadrés par des cases, parce que la case, détermine un peu la façon dont on lit le texte. Elle fait la rupture, elle fait la liaison... pour toutes ces raisons, et parce que j'ai commencé à concevoir ce projet-là à un moment où je réfléchissais vraiment à la bande dessinée. Pour moi, c'est super lié à la BD, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas encore eu tant que ça l'occasion d'en discuter. Puis j'espère vraiment que... Enfin, c'est difficile là, d'avoir des discours autour des livres au Québec, puisqu'il y en a trop, puis il n'y a pas assez de monde. Puis C'est intimidant, mais j'attends beaucoup cette publication-là, en fait, pour savoir si ça vaut la peine aussi que je me plonge dans cette création extrêmement laborieuse, là.
Aucune autre question? Ben, je vais, moi, en poser une dernière. Parce que vous avez une question? Ah, dans ce cas-là, je laisse la place. À l'évidence, vous vous êtes fait beaucoup plaisir en écrivant ce que vous avez écrit. C'est très bien. Il faut se faire plaisir dans la vie et l'acte d'écrire est un acte grave, sacré même, et on ne peut pas passer à côté sans plaisir. C'est du jeu, vous jouez, télescoper les textes, du collage, une touche surréaliste, on est à la limite des mots croisés, il faut deviner, il faut chercher, etc. Et en fin de compte, ce qui vous retient, c'est le plaisir de vous étonner vous-même. Alors ma question est la suivante, c'est à la base de l'acte de lire, il y a un lecteur et son plaisir. Avez-vous l'impression que le plaisir que vous vous donnez, tout légitime qu'il soit, comme je l'ai dit, est un plaisir partagé? Avez-vous l'impression que le lecteur, en vous lisant, je pense à Ciseau, partage votre étonnement, partage votre ferveur, votre enthousiasme que je ne veux surtout pas brimer. Il est beau, il faut le conserver. Mais est-ce qu'en dehors d'un exercice nécessairement narcissique, est-ce qu'il y a la pensée de l'autre, le lecteur, en fait, le livre?
Oui, mais c'est une excellente question. Je serais bien malvenue de dire que je pense que le lecteur a du plaisir et je serais bien malvenue de dire que je pense qu'il n'en a pas parce que je ne suis pas vraiment dans sa tête, malheureusement. Mais je pense que lorsqu'on écrit, on reste dans une certaine posture de lecteur. Puis la seule expérience de lecture que je connaisse, c'est la mienne. Et je pense qu'elle n'est pas si exceptionnelle que ça, au sens où je n'ai pas l'impression d'avoir comme... j'appartiens à mon époque, j'appartiens aussi à une université, à une deuxième université où j'ai avancé dans mon apprentissage de lecture et j'appartiens donc à plein de, mettons, micro-communautés ou de groupes, ou nommez ça comme vous voulez, mais enfin des groupes de personnes avec qui je partage un certain champ d'objets lus, puis un certain champ d'exigence en regard de ces objets lus-là, parce que à un certain point, j'imagine que je pense que le critère de l'étonnement, qui n'est pas vraiment un critère d'étonnement, mais qui est un critère de nouveauté, existe dans la littérature, je ne sais pas depuis toujours, mais depuis longtemps, mettons depuis au moins la modernité. et par conséquent, mon désir de me surprendre, c'est ma façon de nommer ma quête de nouveauté, qui est finalement celle de tout écrivain, je crois. J'espère vraiment beaucoup étonner le lecteur, parce que pour moi, c'est un peu un critère de base pour que ton livre vaille la peine d'être lu. Après, il y a beaucoup de façons de s'étonner, puis là, ce soir, parce qu'on a beaucoup parlé de forme, parce que c'est un discours que je me plais peut-être plus entretenir aussi que les autres discours qui ont été plus développés ou que j'ai plus entendu sur un rapport plus intime à l'écriture, sur comment on met de soi dans le texte ou comment on met de l'expérience de la vie dans le texte. C'est toutes des choses qui sont présentes aussi. Là. Je sais que de l'extérieur, on peut avoir l'impression, justement, entre autres, à cause de ma quatrième de couverture, là, je l'admets, que mon projet est très dada. Mon projet n'est vraiment pas seulement dada, en fait, mais... j'ai un peu choisi de n'en parler que de l'angle de la forme et que de l'angle de la surprise, un peu parce que je suis pas rendue là à développer mon discours, je pense, sur les autres aspects de l'écriture. C'est de la fraîcheur, là, c'est de la jeunesse. De l'immaturité.
Non, elle le dit elle-même très bien, là, ça c'est...
Mais je l'ai dit, mais j'ai pas honte, là, je veux dire, ce serait bien plat.
Mais on a le droit d'assumer ce qu'on veut bien assumer, tout à fait, du moment que c'est assumé, en fait. Je crois que c'est là que ça compte, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? je laisse un dernier temps de sourcil, parce que parfois, il y a des gens qui se déclarent à la toute fin. Non, c'est vraiment comme ça. Martine Emmanuel? En fait, j'en avais quand même une que je vais quand même tenter de finir, parce que bon, moi, j'ai toujours peur de faire passer de temps, et là, on est dans la situation inverse. J'ai l'impression que vous êtes très sage. Il y a eu il y a eu une disparité entre la réception critique par les prix. Le livre a été prisé, mais la réception critique par texte a été très mince pour Ciseaux. Comment est-ce que tu peux t'expliquer ce certain silence radio de la critique et versus quelque chose qui est comme de l'acceptation générale de la part des pairs? Parce que les jurys de poésie, ce sont des jurys composés d'écrivains. Comment tu as vécu ce genre d'écho étrange où on dit « d'accord, c'est très bon, mais on ne te dit pas pourquoi ».
Alors, quand le Lettre québécoise arrive dans la poste au bureau, je me garoche encore pour le lire dans l'espoir. je me l'explique pas, là, c'est un peu intriguant, c'est un peu mystérieux. Je vais me rabattre sur la posture ironique fru de François Hébert, puis dire parce qu'ils comprennent rien. Non, mais pour vrai, si vous voulez me faire des critiques, comme il n'est pas trop tard. J'ai eu une super bonne critique, sinon je dois le dire, qui m'a vraiment rassurée, parce qu'on espère quand même avoir touché des lecteurs. Puis cette critique-là, je l'ai trouvée en me googlant, parce que j'essayais de faire mon CV de publication, puis là, j'ai publié des textes sur Poemsal puis sur Internet, puis bon, la meilleure technique, clairement, pour se retrouver. J'étais dans ce processus ardu de faire la liste des textes que j'avais publiés sur Poemsal, et je suis tombée sur cette critique très longue, signée par un monsieur avec un pseudonyme, sur un site, dont j'ai fini par comprendre qu'il était un site de rencontre français. Fait que c'est ça, je pense qu'à date, c'est ma meilleure critique. Merci, inconnu français.
Eh bien, sur cette critique d'un inconnu français, je crois qu'il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et votre présence.
Merci.
Et merci à Roxane Desjardins pour cet entretien.
Merci.
Radio Spirale.